Bien, on continue. En fait, en préparant le message, j'ai pensé que j'avais envie de le faire différemment parce que ça allait avec le sujet et le principe spirituel qu'on va essayer de décortiquer ensemble ce matin. Et on va donc s'occuper de quelques versets, 4 à 7, Romains 15, 4 à 7. Et ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on les lise tranquillement et qu'on prenne quelques minutes pour y réfléchir chacun pour soi de son côté. On va essayer de perdre un peu l'habitude qu'on vient au culte juste pour écouter la parole de Dieu. On vient aussi pour la méditer, pour y réfléchir, pour partager. On va aussi l'écouter. Alors, je vais lire ces premiers versets et je vais les lire deux fois dans deux traductions différentes. Je ne sais pas comment c'est affiché ici, mais ça sera pour votre méditation après. Je commence avec la traduction dite Colombe, second la Colombe. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Même passage, traduction du Semeur. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, si vous avez vos Bibles, vos natels, le texte qui est ici, ou je sais pas, mais juste, on ne va pas prendre longtemps, bien sûr, ce matin, mais une minute ou deux pour que chacun puisse le lire et y réfléchir. Voilà, on va continuer. Alors, je ne peux pas tout reprendre, bien sûr, mais il y a 2 semaines, ben, le message que j'avais partagé, on avait essayé de dépiéger certaines choses, hein, pour comment on comprend qu'il faut d'abord s'occuper des besoins des autres avant de s'occuper de nous. Et comment la fausse compréhension de ce principe fait qu'on peut être frustré, alors que Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux pour les autres, mais qu'on puisse s'occuper des autres parce que ce que Dieu a fait dans nos vies a été mis en place. Et on est tout à fait dans le même contexte ici, hein. Ce verset, ces passages sont dans le contexte de... Super. Ça, c'est bien. Il y a des choses qui font plaisir. Ce passage est dans le contexte de vivre ensemble le corps de Christ. Hein. Première partie de l'épître aux Romains, toute la partie doctrinale, etc., qui est très importante. Mais là, on est dans comment ces choses-là, ces réalités, on va dire, c'est pas les théories, mais les idées que Dieu nous a communiquées, comment elles se vivent dans l'Église qui est le corps de Christ. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. On est là-dessus, et le verset 7 nous dit, faites-vous bon accueil, hein, comme Christ vous a accueilli. Et au milieu, il y a un passage qui nous parle de glorifier Dieu d'une seule voix. C'est pour ça que j'ai choisi qu'on prenne le moment de louange après. On va pouvoir le glorifier d'une seule voix, peut-être en ayant une autre compréhension après ce moment ensemble. Donc, ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Ben oui, ce que Dieu a permis par le Saint-Esprit qui nous soit communiqué dans les textes. À l'époque, lorsque Paul parle là, c'était uniquement l'Ancien Testament, hein, les livres du Nouveau Testament n'avaient pas encore été rassemblés. A été écrit afin que la patience et la consolation que ce texte donne, nous possédions l'espérance. La patience, d'autres traductions disent persévérance. C'est pas juste être patient, j'attends le train, je m'énerve pas. C'est plutôt la capacité à pas laisser tomber, à pas s'arrêter. Je suis découragé, c'est difficile, mais je continue. Je doute, mais ça fait rien, je dis à Dieu, je lâcherai pas le morceau. C'est l'attitude de Jacob quand Jacob se bat avec l'ange et puis ben, il est blessé, il ne peut pas gagner, mais il dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. C'est le contraire d'une notion très à la mode, le lâcher prise. C'est le pas lâcher prise. C'est dans d'autres domaines, c'est pour ça. L'autre est utile aussi, mais à d'autres moments. C'est, voilà, je comprends pas, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie. Ça n'a pas de sens. Je sais plus où j'en suis. C'est compliqué. Mais je veux continuer avec toi. Je sais pas comment. Je sais pas voir. Mais je veux continuer avec toi. Hein. Ce désir de continuer, même si on ne sait pas comment et pourquoi. C'est ça dont ce mot nous parle, la patience et persévérance. Et la consolation. Consolation, le mot qui est utilisé ici, est un des. Ça se rapproche d'un des titres qui est donné au Saint-Esprit, le consolateur. Hein, celui qui est appelé à côté d'eux. Donc c'est pas juste la consolation, j'étais triste et j'étais consolé. C'est ça aussi. Hein. C'est le fait que Dieu, par le ministère du Saint-Esprit et par les pensées qui sont contenues dans la parole de Dieu, va être appelé à côté de nous pour nous exhorter, nous encourager, nous reprendre, nous communiquer quelque chose en étant à côté. Il y a une notion de proximité qui est essentielle. C'est pas une consolation par une carte qu'on a envoyée, c'est une consolation qui vient de quelqu'un qui est à côté de vous. C'est pour ça que c'est plus que des idées ou des paroles, c'est une réalité d'une présence. Vous savez, quand vous passez des moments difficiles, il y a des gens qui vous passent un petit coup de fil, ça fait plaisir, il y a des gens qui vous envoient un petit mot, ça fait plaisir, c'est utile. Puis il y a vos amis proches, ils vont venir et ils savent qu'il n'y a rien à dire. Ils viennent, ils sont là à côté de vous, et puis ils se taisent, mais ils sont là à côté. C'est vraiment le sens le plus fort de ce mot-là. Saint-Esprit, et donc Dieu par le Saint-Esprit, qui vient et qui est à côté de nous, et c'est au-delà des mots, c'est pas juste des idées, genre, tu sais, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, et puis, ouais, ça ira mieux demain, et puis, allez, il y en a qui se passent des choses plus difficiles. Non, c'est juste une présence qui est là et qui nous dit, je suis là, et je suis avec toi, et je suis pour toi, et je le serai encore demain, et après-demain, et aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, je serai là. On pourrait presque dire que c'est la persévérance de Dieu vis-à-vis de nous. Et ces choses-là sont contenues dans les Écritures. Et il est dit donc que par les Écritures, nous possédions l'espérance. Chaque mot est important ici dans ces petits versets. Le verbe posséder, là, vraiment, il est bien à sa place. Posséder, être le propriétaire de. Quelque chose qui nous appartient. Et c'est pour ça que je vous ai aussi laissé un petit moment pour lire ce texte et le méditer, parce que au-delà du sujet qu'on voit ce matin, qui est important, on a ici la description d'un, comment on pourrait appeler ça, d'un outil, d'un élément de notre vie spirituelle indispensable pour grandir dans la vie de Dieu personnelle et au niveau du corps de Christ. C'est que ce qui est contenu dans la parole de Dieu, dans ses écritures, on doit à un moment le posséder. Si je prends l'exemple que j'utilise souvent et qui est assez simple à comprendre, de l'alimentation, avoir de la nourriture dans vos placards ou dans vos réfrigérateurs et avoir mangé et digéré et assimilé les éléments nutritifs qui étaient dedans sont deux choses différentes. Bien sûr, pas deux choses en opposition. Si mon frigo est vide et que je dois cuisiner, je peux pas, hein. Mais s'il est plein et mon garde-manger aussi et que je mange pas, pour moi, en tout cas, ça fait aucune différence qu'il soit plein ou vide. Or, les Écritures contiennent, peut-être pas la totalité, mais l'essentiel ou une grosse, grande partie des éléments nutritifs de notre vie spirituelle. On va commencer par les entendre. C'est pour ça que je dis, on ne fait pas qu'écouter la parole de Dieu quand on se rassemble. Bien sûr, il faut commencer par l'entendre, mais ça peut être par notre lecture personnelle. Mais il faut qu'il se fasse un travail pour que ces éléments nutritifs soient incorporés à notre être spirituel. Si ce travail ne se fait pas, on va être des gens qui savons plein de choses sur Dieu, qui connaissons des choses sur l'alimentation spirituelle, mais on va être sous-développés. On va pas mourir parce que la vie de Dieu est extraordinaire. Cette nouvelle vie qu'il a mise en nous, elle est tellement solide que même si on la nourrit pas, elle meurt pas. Mais elle se développe pas. Elle reste à l'état d'embryon. Elle va rester comme ça toutes nos vies, et puis on va arriver au ciel tout rachitique, tout maigre, avec un squelette tout mou, pas de muscles, juste tout blanc. Mais Dieu a prévu autre chose. Il a prévu que cette vie qu'il a mise en nous, que nous n'avons pas fabriquée, qui vient de lui, qu'elle se développe. Hein, comme on le voit dans le monde visible, ben, un enfant est conçu, il naît, et puis il grandit, il se développe, et il arrive à maturité. Et ça fait de beaux jeunes gens, comme on a ici. Bon, après, malheureusement, sur Terre, ça repart de l'autre côté. Mais dans la vie spirituelle, non, on grandit toujours, mais on vieillit pas. Enfin, on vieillit, mais c'est de mieux en mieux. Ça, hein? Toujours jusqu'au bout, d'accord? Donc l'exemple s'arrête à un moment. Mais c'est important. Et comment on va ingérer ces aliments spirituels, hein? S'il y avait une recette, elle serait connue. Il n'y en a pas. Mais en tout cas, l'élément temps est indispensable. Et c'est pour ça que la méditation, c'est quand même en grande partie de la lecture, plus du temps, plus de la concentration, plus beaucoup d'autres choses. Mais ces éléments-là sont pas remplaçables. Venir, écouter, comprendre et partir, c'est bien. Ça vous nourrira pas. Ça vous changera pas. Ça vous stimule éventuellement un petit coup. Ah ben c'était bien ce qu'il a dit ce matin. Oh c'était intéressant. Oh c'était pas intéressant. Ah j'ai compris. Ah j'ai pas compris. Ah j'ai bien aimé. Ah j'ai pas aimé. Je rentre chez moi. Ça c'est les commentaires qu'on fait de ménagères qui font leurs courses. Prix des carottes a baissé. Hein. Ouh, alors là, j'ai vu une recette sur Betty machin, un truc. Elle a l'air super bonne. Hein. Ouh, vous avez vu comment on fait le crumble, c'est intéressant. Hein. Puis on rentre chez nous. Éventuellement, on mange un sandwich dans un. Bon, je dirais pas. Nicolas me voit de travers. Dans un resto bizarre. Hein. Et puis, voilà, avec ça, je meurs pas de faim, quoi. Mais c'est dommage. Parce que le but du moment qu'on a passé là, c'était que ces aliments spirituels soient ingérés en nous. Hein? Donc, je vous encourage, patience, consolation, parce que ces deux éléments-là produisent en nous, lorsque nous les possédons, c'est-à-dire lorsque nous les avons avalés, mâchés, mastiqués, ruminés, digérés, ils font que nous possédons l'espérance. Et cette espérance, elle est extraordinaire. Hein. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'elle est comme une ancre qui nous accroche à la réalité du monde spirituel, comme une ancre qui fait qu'on n'est pas emporté par les difficultés de la vie ou par les facilités de la vie, par les épreuves ou par les choses qui vont trop bien et qui font que je dérive et puis je me réveille, je me dis « Ouh !» J'ai dérivé par rapport à ma foi. Je dois ramer pour revenir, recommencer. Non, l'espérance, elle nous ancre dans la réalité du vrai monde, celui de Dieu, celui de la pensée de Dieu. Et ça se fait par ce travail de s'assimiler, d'assimiler, pardon, les éléments nutritifs qui sont contenus dans la parole de Dieu pour qu'ils deviennent plus que des idées, des connaissances, des choses qui alimentent notre tête. Ça passe par là. Mais que ça devienne de la nourriture qui fait que il y a du muscle, il y a des os qui poussent, se développent, il y a de la peau, il y a les tendons, il y a des nerfs, il y a tous les organes qui fonctionnent. Et pensez à ça, c'est une chose que je répète souvent, mais je la répéterai jamais assez. Nous sommes vivants, autant physiquement que spirituellement. Dieu est à l'origine de tout ce qui est vivant, et tout ce qui est vivant fonctionne avec des systèmes qui sont en cycle ou en boucle. Dans le corps, on a le système respiratoire, le système, je sais plus comment il s'appelle, pour la circulation du sang, le système pour, le système osseux. On a plein de systèmes comme ça qui fonctionnent les uns avec les autres, mais tous, ça vient, ça va, ça circule la vie. Si vous interrompez quelque part, ben ça fonctionne plus. Hein. Si je connaissais mieux, je connais pas, peut-être Philippe pourrait. Avec l'électricité, c'est pareil. Pour que les choses, les appareils électriques fonctionnent, il faut toujours qu'il y ait un circuit qui soit fermé. Ça va et ça vient. Vous coupez quelque part, ça s'appelle un interrupteur d'ailleurs, et puis c'est fini. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Ça vient de Dieu, ça passe à travers nous, ça nous nourrit, ça ressort de nous, ça va vers les autres, ça retourne à Dieu et ça circule. Quand quelque part ce circuit est coupé, on meurt pas, comme je l'ai dit. on va pas à l'enfer, c'est pas la question. Mais on ne se développe pas, on ne se fortifie pas, on ne grandit pas. Les choses ne se font pas naturellement. Et c'est là qu'on commence à réfléchir et à inventer des façons artificielles de faire ce que la vie devrait faire naturellement. Et c'est là qu'on se fatigue, qu'on se décourage, qu'on s'irrite, qu'on devient amer, qu'on se marche sur les pieds. Parce que vivre, c'est pas fatigant. Enfin, c'est fatigant, mais c'est pas décourageant. Ça produit pas la frustration. Dieu a prévu pour que ça fonctionne. Donc, on a ce processus-là qui se met en place. Et puis, le verset qui suit nous dit « Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Père et Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. » On voit comment Dieu sait très bien que je ne peux pas me concentrer pour louer Dieu si je ne suis pas en paix dans mon cœur. Hier et puis jusqu'à ce matin, j'avais une situation personnelle qui me troublait. Et puis, j'étais très embêté parce que je me disais, j'ai ce message à préparer, je dois partager quelque chose de la part de Dieu. Donc, je dois me préparer, c'est-à-dire être disponible devant Dieu tranquillement. Mais je ne peux pas. Parce que j'ai cette situation qui n'est pas réglée et qui est là et qui m'inquiète, qui me trouble, qui fait que je ne suis pas bien. Que je suis... Et c'est extraordinaire parce que ce texte-là était en plein dans ce sujet-là. Et donc, il fallait faire les choses dans l'ordre. J'ai dû prendre du temps pour méditer des textes de la parole de Dieu qui parlent du fait que Dieu sera toujours avec nous, que peu importe comment ça va se passer, il sera là, jusqu'à ce que la paix de Dieu reprenne le contrôle de mon cœur, de mes émotions, de mes pensées, et que je puisse sereinement, sans tension, sans pression, sans avoir à lutter, me concentrer sur ce que j'avais vous partagé ce matin. Ça ne peut pas se passer dans l'autre sens. On est humain. Hein. On voit, Jacques illustre ça, c'est dans un autre contexte, je le sors du contexte, mais l'exemple reste vrai, hein, quand il dit, Jacques 2,15, « Si un frère ou une sœur sont nus, qu'ils manquent de nourriture de chaque jour et que vous leur dites, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, hein, mais que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il ? » Si on dit, ce matin, on va se rassembler et puis il faudrait que d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un même, on loue Dieu ensemble. Mais chacun d'entre nous, on est inquiet pour quelque chose, on est préoccupé pour quelque chose, on a des difficultés avec ça. J'arrive pas à pardonner à lui, je sais pas ce qui va se passer avec mes enfants, j'ai un problème de santé, j'ai un problème avec mon travail, avec mon avenir, avec des décisions à prendre. Et puis, on s'imagine que ce que Dieu veut, c'est tant pis, moi je suis pas important, je dois louer Dieu. Non, c'est pas dans cet ordre-là. La belle progression qu'il y a dans ce texte, c'est j'assimile les promesses de Dieu qui sont contenues dans les Écritures, hein. Pas juste les savoir, je les médite, je les mâche, et ça prend un peu de temps. Hein. Elles vont amener, pas à changer la situation, mais à changer mon cœur. Et maintenant, je suis dans cet état où, Dieu dit, hein, la paix de Dieu qui est au-delà de la compréhension intellectuelle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, je suis serein. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais je suis en paix. Et parce que Dieu m'a dit, va manger, va te chauffer, il m'a donné du pain, il m'a donné du bois. J'ai pu manger, j'ai pu me chauffer. Bon, il n'a pas mis le pain dans la bouche, il n'a pas mis le bois dans le poêle, c'est à moi de le faire, mais il me l'a fourni. Hein. Maintenant que je suis rassuré, j'ai mangé, j'ai chaud, alors je peux m'approcher de mes frères et sœurs pour glorifier Dieu. Hein. Et glorifier Dieu, ce n'est pas juste chanter des chants, ça en fait partie. Mais c'est le reconnaître pour ce qu'il est. Ça reprend beaucoup de choses. Le célébrer, le manifester, l'apprécier, proclamer, l'accueillir. Toutes ces choses-là font partie de glorifier Dieu ensemble. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe lorsqu'on est quelques-uns. Ce matin, on est beaucoup. Hein, parce que la Bible dit deux ou trois. Donc là, on est plein de fois deux ou trois. Pour le louer. Là aussi, il y a des échanges qui se font. Hein. David pourrait nous expliquer ce que c'est l'osmose, hein, des échanges hein, à travers les membranes de la cellule. Les cellules restent distinctes, mais il y a des choses qui s'échangent. Hein. On se regroupe là, on a chacun d'abord mangé, médité, reçu la consolation de Dieu, reçu la persévérance de Dieu, toutes ces choses-là. Notre cœur a été, on va dire, stabilisé pour qu'on puisse s'approcher les uns des autres en étant pacifiés. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que la vie de Dieu circule au-delà de circuler en moi, déjà dans un circuit comme ça, hein, lui et moi, c'est lui, moi, mais aussi moi et les autres. Et là, cette chose-là, c'est celle qui glorifie Dieu. Hein. Cette réalité-là, après qu'elle se manifeste par, selon le moment, la culture, nos traditions, elle pourrait se manifester par demi-heure de silence. On n'est pas habitué, ça nous ferait une peur panique. Hein. Mais dans l'histoire de l'Église, encore aujourd'hui, dans plein d'endroits, les gens vont manifester la gloire de Dieu par une communion silencieuse remplie de la présence de Dieu. Dans d'autres moments et dans d'autres cultures, ça va être en dansant, comme David le faisait devant l'Éternel. Dans d'autres endroits et dans d'autres cultures, ça va être en chantant des chants. Dans d'autres, ça va être autrement. Et c'est sûr qu'idéalement, on pourrait imaginer qu'on a la liberté et la possibilité d'expérimenter toutes ces façons de glorifier Dieu. C'est un peu utopique sur Terre, mais en tout cas, savoir que ça existe et qu'on peut s'y ouvrir. Hein. Mais oui, la réalité d'une chose est plus importante que sa manifestation. Il faut qu'elle soit là. Après, elle se manifeste comme elle veut. Hein. De la même façon que dans une relation entre deux personnes, ce n'est pas les bouquets de fleurs, les restaurants, les poèmes ou faire la vaisselle qui fabriquent l'amour. Mais si l'amour est là, il va se manifester par un repas préparé, un bouquet de fleurs, une poésie, ou faire le ménage, ou des fois se taire, ou au contraire parler, ou prêter sa voiture. Vous voyez, on ne peut pas dire si je prête ma voiture, c'est parce que j'aime. Mais parce que j'aime, je peux prêter ma voiture. Hein. C'est pareil dans la vie. Si la vie de Dieu est en nous, qu'on a été nourri par ses nutriments spirituels, et que ça nous remplit, alors on glorifie Dieu déjà parce qu'on vit ça. Et parce que notre cœur est plein, alors on va chanter, parler, prier, se taire. Mais on va le vivre ensemble aussi. Et c'est pour ça que il n'y a pas de transition, c'est une même chose. On revient de nouveau à verset 7. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Le fait que nous nous accueillons comme Christ nous a accueillis, ça glorifie Dieu. Vous voyez que c'est pas juste dire « Dieu, je te glorifie ouais, ». Ça peut être bien si c'est vrai, mais c'est le fait que nous nous accueillons. Et je veux m'arrêter juste un petit moment pour terminer. Faites-vous mutuellement bon accueil, ou dans notre traduction, je sais pas, Dieu, accueillez-vous donc les uns les autres. Hein. Le mot ici pour s'accueillir veut dire « recevoir dans son intimité », « exercer l'hospitalité », « accueillir comme ami », toutes ces choses-là. Et vous voyez pourquoi le corps de Christ, ça peut pas être à distance tout le temps. Bien sûr, on a nos chez nous, hein. Mais écoutez les messages sur Internet. Et il y a des gens qui n'ont pas le choix, ça, ils font avec ça. Hein, mais écoutez des messages sur Internet, chanter des chants avec un bon CD, et puis prier et lire sa Bible, c'est génial. C'est pas l'Église. Et quand encore une fois, il y a des circonstances qui font qu'on n'a pas le choix, on le vit comme ça. Hein. Mais si c'est possible, on ne peut pas remplacer, parce que s'accueillir, ça fait partie des choses qui glorifient Dieu. Et c'est pour ça que si la vie d'église se limitait à venir le dimanche matin, je m'assois, bonjour, bonjour, je chante, j'écoute le pasteur, bonjour, bonjour, je rentre chez moi, mais il manque pas tout, mais presque. C'est où qu'on s'accueille ? C'est où que je reçois comme un ami mon frère chez moi, et c'est pas forcément chez moi dans ma maison, mais dans mes pensées, dans ce que je vis, dans ce que je partage. Hein. C'est quand que je mange ces aliments spirituels pour qu'ils font que, qui vont produire en moi la capacité à être tranquille pour pouvoir me tourner vers les autres. Vous voyez toutes ces choses-là qui font que, bien sûr, on le sait, on le dit tout le temps, mais notre vie chrétienne et la vie d'église, c'est 24 heures sur 24, tous les jours. Et on a besoin de temps seul avec Dieu, on a besoin de temps seul avec nous-mêmes, on a besoin de temps avec les autres. Après, peu importe comment ça se manifeste à cette heure-là, à une autre, de cette façon, d'une autre. Mais ces choses-là, on en a besoin, pas pour faire plaisir à Dieu, parce que c'est comme ça qu'on va être en bonne santé spirituelle, et donc on va être épanoui, qu'on va pouvoir devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons, hein, et qu'on va avoir une vie remplie. Je dis souvent, le bonheur sur Terre, c'est une notion qui est assez vague, ça n'existe pas. Si l'idée c'était tout qui va bien tout le temps pour, dans tous les domaines, ben, ça c'est bien de viser ça, mais ça n'arrivera pas. Mais être rempli, ne plus être dans l'insatisfaction permanente. Régulièrement y retomber dedans, c'est normal, ça fait partie de... Hein, je mange, je fais l'exercice, j'ai de nouveau faim, je remange, donc ça c'est le cycle de la vie. Désirer être insatisfait, c'est utile. Mais pas vivre dans l'insatisfaction, la frustration, l'amertume permanente, avec cette idée que suivre Dieu c'est difficile, je souffre sur terre, je serai heureux au ciel. C'est une horreur. C'est surtout, ça glorifie pas Dieu de penser comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous penseriez si vous croisiez des enfants qui vous disent « Ce qui fait plaisir à mes parents, c'est qu'on mange mal, qu'on travaille dur et qu'on soit... » Voilà, on se sacrifie pour eux. J'ai réalisé il y a 2 jours, je ne sais plus où c'est que j'étais, il y avait des gens qui parlaient, je ne les connaissais pas, mais j'étais à côté, j'entendais. Une expression qui, pourtant que j'ai entendue souvent, mais qui m'a fait horreur. C'était une dame qui parlait d'une autre dame qui faisait des choses pour son mari et puis qui disait « Mais elle se donne de la peine, elle se donne de la peine. » Vous avez déjà réfléchi à cette expression ?« Se donner de la peine. » Arc. C'est une horreur. Dire à quelqu'un « Je me donne de la peine pour toi. » Arc. Non, mais on peut le dire en ayant de l'amour. Hein. Mais l'expression, vous savez, moi, les mots me travaillent toujours. « Se donner de la peine. » J'imagine aller dire à la personne que j'aime, je me suis donné de la peine pour toi. Hein. Tu sais quoi? Garde-la ta peine. Ne me la donne pas. Ne le fais pas. Hein. Mais ça montre bien la façon dont on fonctionne négativement. Et pareil avec Dieu. Quoi, hein. J'ai été au culte ce matin au lieu de dormir. Je me suis donné de la peine pour Dieu. Et Dieu dit, mais je veux pas que tu te donnes de la peine pour moi. Je veux que tu te réjouisses pour moi. Hein? Ah, ce matin, je me suis donné de la peine et je me suis levé 1h20 pour lire ma Bible. Hein? Hein, non, on s'est donné du plaisir. Hein? Et c'est vrai qu'il y a de la discipline, il y a de la persévérance, il y a ces choses-là, mais on a tellement besoin de comprendre que quand la vie fonctionne, quand les choses circulent, alors oui, il y a des moments difficiles, on a besoin de s'accrocher à Dieu, de se nourrir, mais ça remplit l'âme. Ça remplit l'âme. Quand on peut s'arrêter à la fin de la journée de se dire, ben, si je meurs cette nuit, si Jésus revient cette nuit, c'est super. Je suis rempli. Demain matin, je serai aussi vide, on recommencera, mais là, c'était une journée remplie par Dieu, par les frères, par ce que j'ai vécu avec lui, par peu importe ce que c'est. Ça, c'est ce que devraient être nos vies. Hein. Et puis quand elles ne le sont pas, ben, c'est pas un problème. On ne fait pas, on continue, on recommence. Mais on vise ça, on continue vers ça. Et pour ça, il n'y a pas de raccourci. Il faut qu'on se nourrisse. Et pour ça, il faut du temps, il faut du calme, il faut de la concentration, et il faut les uns les autres. Et moi, je me réjouis parce que, honnêtement, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais je suis très, 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 très encouragé par la façon dont vous grandissez, chacun d'entre vous, et dont on grandit ensemble. Ça ne fait pas des feux d'artifice ou des étincelles. Hein. Non, mais... Il n'y a pas des choses exceptionnelles, visiblement, hein, mais sérieusement, je me suis occupé d'églises beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus d'activités, où il y avait beaucoup moins de contenu spirituel, et où je me sentais moins à la maison. Et je ne suis pas en train de dire que tout était bien, qu'on est arrivé, qu'il n'y a plus rien à faire, mais ce qu'on vit, ce qu'on apprend à vivre ensemble... C'est rempli d'un vrai contenu et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas faire de compromis là-dessus. Et c'est super, moi je suis content de le vivre avec vous. Alors je relis ce passage et je termine avec ça, et puis on va louer Dieu d'une seule voix et d'un seul cœur. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, c'est lui qui le fait, hein. Les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus, et c'est pas une pensée unique, c'est une pensée en commun sur Christ, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Amen.